Parfois, on a des surprises en lisant la Bible. Vous voulez une lecture intense, quelque chose de solide? Vous prenez le livre de Daniel, vous prenez le premier chapitre du livre de Daniel, et on commence à vous raconter une histoire de choses qui se mangent et qui ne se mangent pas, qui se boivent et qui ne se boivent pas. Et vous vous demandez, mais quel est le rapport entre cette histoire de casse-croûte et les prophéties qui sont dans Daniel et qui ont un impact important pour le reste de notre temps jusqu'à la fin et au retour de Jésus. Alors, ce qu'on fait généralement, on saute ces chapitres, on s'arrête à l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, parce que ça, c'est intéressant, et puis après, on arrive enfin dans les prophéties. Mais enfin, pourquoi donc commencer un livre si important avec une histoire de manger ou pas manger ? Ce n'est pas le premier livre de la Bible où quelque chose de semblable arrive. Quand vous lisez le livre de la Genèse, par exemple, vous arrivez à la deuxième page et on a une histoire aussi de manger et de ne pas manger. Et beaucoup de gens ont considéré que cette histoire-là était déplacée, ridicule, parce qu'elle n'est pas en rapport avec l'importance du moment qu'on vit. Enfin, c'est un moment important, c'est Adam et Ève confrontés à l'ennemi de l'humanité. Et puis il y a cette histoire de pommes. La pomme que Ève a croquée. Alors c'est sûr que si on ne comprend pas cette histoire, on va en faire un conte et légende de la Bible. Et beaucoup ont fait de cette histoire un conte ou légende de la Bible. L'histoire de la pomme, vous comprenez? On voudrait une autre explication, et c'est sans doute vrai qu'il faut chercher au-delà de la pomme, si c'était une pomme, quelque chose qui nous parle davantage. Mais enfin, cette histoire va beaucoup plus loin que simplement manger ou ne pas manger. Ça va beaucoup plus loin que prendre de la nourriture ou ne pas en prendre. Cette deuxième page de notre Bible voit déjà le monde qui tourne mal. Genèse chapitre 3, au verset 1, il nous est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit ?» Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Un drame important autour d'une pomme. Et pourtant, on a l'impression que cette histoire de catastrophe dont nous vivons encore les conséquences aujourd'hui a commencé avec la tentation irrésistible de l'appétit. Manger ou ne pas manger. L'irrésistible envie de manger le fruit de la désobéissance. Et cette envie demeure encore jusqu'à aujourd'hui. Mais je voudrais maintenant faire un saut immense dans le temps et avancer 4000 ans plus tard. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, je retrouve une situation très similaire. Évangile de Luc, chapitre 4. Au verset 3, il est écrit ceci. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Cette fois-ci, on n'est plus dans un beau jardin. On n'est plus dans un jardin extraordinaire que Dieu a créé au-delà de ce que l'on peut imaginer. On est dans un désert. Et c'est effectivement ce qu'est devenu le monde après 4000 ans de gouvernance du diable. Le monde n'est plus un jardin, le monde est un désert, et le cœur des hommes aussi. Et on retrouve Jésus dans ce désert, le deuxième Adam, avec encore une fois une histoire de manger ou pas manger. Mais enfin, c'est important ce qui se passe, il est lui là aussi confronté à l'ennemi, l'humanité. Et ça va tourner autour de manger ou pas manger, faire du pain avec ses cailloux ou ne pas en faire. Si tu es le Fils de Dieu. Le deuxième Adam, finalement, Jésus lui-même, se trouve dans une situation semblable à celle de Adam, 4000 ans plus tôt. Manger ou pas manger? Jésus n'avait pas mangé, il avait jeûné pendant longtemps, plus longtemps que nous ne pourrions supporter les uns et les autres. Et la tentation arrive avec sa force à ce moment-là. Écoute, tu as faim. T'es le Fils de Dieu, non? Vas-y, mange. Ton jeûne est fini. Mange. Vas-y, utilise donc ta puissance pour te sortir de cette affaire. Dans le livre Message choisi au volume 1, Ellen White écrit ceci. C'est ainsi que le Christ inaugura sa vie de lutte en vue de vaincre l'ennemi puissant, soumis à l'épreuve même à laquelle Adam n'avait su résister. Victorieux dans ce conflit, il allait pouvoir briser le pouvoir de Satan et arracher la race humaine de la honte et de la chute. Premier Adam, deuxième Adam. Et curieusement, pour l'un comme pour l'autre, ce conflit gravite autour de manger ou ne pas manger. Manger dans le désert, boire dans le désert. Combien sont morts dans le désert, faute d'avoir à manger et à boire? Et curieusement, cette histoire de manger dans le désert doit résonner aux oreilles de Jésus comme du déjà vu. Parce que bien longtemps avant, l'ennemi avait déjà travaillé avec le peuple de Dieu lui-même, avec la même tentation. Regardez dans le livre des psaumes maintenant. Dans le psaume 78, nous retrouvons là un psaume où il nous est raconté ce qui s'est passé dans le désert une fois que le peuple a été libéré de l'Égypte. Et dans ce psaume qui rapporte ces événements, il est dit au verset 16, en parlant de Dieu, « Du rocher, il fit jaillir des sources, et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, des eaux ont coulé, des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Est-ce que Dieu est capable de dresser une table dans le désert? Et le texte nous dit, ils ont tenté Dieu. Et Dieu a répondu parce qu'il a mis une table dans le désert tous les matins. La manne était devant leur porte. Le repas était prêt pendant 40 ans. Et Dieu a dressé une table dans le désert pour Jésus. Parce que sinon, on revient dans le texte de Matthieu qui raconte l'histoire de la tentation. On apprend qu'après avoir résisté au diable, les anges sont venus et l'ont servi. Dieu a dressé une table dans le désert. Dieu a nourri son peuple. Il a délivré de la tentation. Manger, c'est donc beaucoup plus, finalement, que simplement absorber de la nourriture parce qu'on en a besoin pour vivre. Ça va beaucoup plus loin que ça. Jésus va utiliser ces événements pour essayer de conduire les gens qui l'écoutent un petit peu plus loin. Il va capitaliser sur ces événements dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Et vous connaissez cette histoire, Jésus va multiplier le casse-croûte du petit garçon qui était là et va nourrir des milliers de personnes. Et puis, le lendemain, il va faire un discours que nous appelons le discours sur le pain de vie. Jésus veut essayer d'amener ces gens à parler non pas seulement du pain qui se mange, mais de tout ce qu'il y a derrière, cette histoire de manger ou pas manger. Ainsi, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 32, il dit « Je vous le dis en vérité, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Verset 35, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je viens par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Écoutez, c'est pas clair pour ceux qui écoutent. Mangez-moi. Oui, mais hier, ils ont mangé du pain. Maintenant, ils sont en train de dire mangez-moi. et si vous me mangez, vous aurez la vie éternelle. Il est évident qu'il y a derrière cette histoire de manger beaucoup plus que ça. Jésus, dans l'évangile de Jean, dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Jésus se nourrit de l'obéissance. Adam s'est nourri de la désobéissance. Voilà la différence. On est là beaucoup plus loin que simplement l'histoire d'une pomme. Et le Seigneur Jésus nous invite à suivre son exemple, c'est-à-dire à nous nourrir du fruit de l'obéissance, pas du fruit de la désobéissance. Alors, tout a basculé quand Adam et Ève se sont nourris du fruit de la désobéissance. Peu importe ce que c'était ce fruit, mais le fruit de la désobéissance. Il va falloir que Jésus nous apporte l'antidote pour nous désintoxiquer de cette désobéissance. Et nous retrouvons Jésus à la fin de son ministère dans l'évangile de Marc, pour prendre un des récits qui rapporte cet événement, au chapitre 14. Évangile selon Marc, chapitre 14. Au verset 22, il est dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Jésus prend du pain et il le leur donne. Il le leur donne à manger. Ce pain le représente lui. Et là encore, ils sont invités, mettez des guillemets, à manger Jésus, à boire son sang. Prenez, ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon sang. Alors pendant des siècles, les théologiens se sont battus pour savoir si c'était réel ou si c'était une image. Si quand on allait mordre sur le pain, ça allait saigner ou pas. Et certains se sont dit, Jésus est vraiment dedans, il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et voilà que les chrétiens deviennent une bande de cannibales. D'autres ont dit, mais non, quand Jésus dit, je suis la porte, Jésus n'est pas entre les deux panneaux de la porte, coincé entre deux. Quand Jésus dit, je suis le cep, il ne s'est pas rapetissé pour rentrer dans ce bout de bois. Là, on est en train d'ouvrir la porte au panthéisme, sinon vous comprenez. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps », on a bel et bien un symbole, une image, pour comprendre à quel point il va falloir manger Jésus. Mais alors, manger, c'est quoi? Eh bien, quand on y pense, manger, c'est détruire ce que nous mangeons pour pouvoir en profiter. Parce que si nous ne détruisons pas ce que nous mangeons, nous n'en profitons pas. Nous n'en tirons pas les éléments nutritifs. Si vous mangez une pomme, vous allez détruire cette pomme. Si vous mangez Jésus, vous allez détruire Jésus. C'est une image encore qui m'aide à comprendre à quel point ma situation, mon péché, a rendu nécessaire la mort de Jésus. Et c'est comme si chacun d'entre nous, nous étions des artisans de cette crucifixion nécessaire pour nous sauver, pour tirer de lui les éléments nutritifs dont nous avons besoin, non pas pour vivre simplement aujourd'hui et demain jusqu'à notre prochain repas, mais pour vivre éternellement. C'est donc un fruit d'obéissance que nous mangeons, antidote de celui que Adam nous a présenté et que nous avons mangé aussi. Pendant des siècles et des siècles, les Hébreux ont vécu la même chose, la même image d'ailleurs, avec la Pâque. Parce qu'à la Pâque, il fallait prendre un agneau et c'est tout le monde qui en mangeait, ce n'était pas juste les prêtres, c'était chacun qui devait manger cet agneau. Leur montrant par là que, même s'ils étaient le peuple de Dieu, c'est individuellement que cet agneau, on se l'approprie. Manger la Pâque, il fallait que tout le monde puisse en manger. C'était un repas solennel et sacré, un repas source de vie éternelle, parce qu'il représente Jésus. Et Jésus, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, disait « Je ne boirai plus jamais de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive du nouveau dans le royaume de mon Père. » Jésus attend avec impatience de pouvoir participer à une sainte scène avec nous. Et j'imagine facilement Jésus qui se penche vers nous et vers ses enfants et qui nous voit participer comme nous le faisons ce matin à la sainte scène, avec l'impatience de se dire « Quand est-ce que je pourrai y participer avec eux ? Enfin !» Et ce n'est pas pour rien que, à l'Église des derniers temps, Dieu adresse cette invitation spéciale. Elle se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, se trouve là une invitation, et vous connaissez ce texte, c'est une lettre que Jésus envoie à l'Église des derniers temps. Et dans cette lettre, il dit ceci au verset 20. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Si on lit ce texte superficiellement, on va se dire « Mais c'est tout ce que Jésus a à m'offrir. » Il ne s'agit pas ici d'aller souper sur un coin de table à Tim Hortons ou McDonald's. Mais alors, il y a quoi derrière cette histoire de manger ? Dans la Bible, manger, c'est faire alliance avec quelqu'un. Quand on fait alliance avec quelqu'un, on mange avec lui. Et vous pourriez relire ces textes de l'Exode où on voit Dieu qui invite les chefs du peuple à venir manger sur le mont Sinaï avec lui. Partager un repas avec Dieu lui-même, c'est qu'ils avaient fait alliance avec eux. Et ici, Jésus nous invite à faire une alliance spéciale avec lui, qui va être scellée, concrétisée, marquée par un repas partagé. On ne va pas partager un repas avec son ennemi, on va partager un repas avec quelqu'un avec qui on a développé une certaine intimité, un certain contact. Je souperai avec lui. Jésus nous invite à un souper avec lui qui est un souper alliance, à ceux qui sont à la fin des temps. Ça n'est pas proposé à ceux qui sont avant. Parce qu'à la fin des temps, on s'approche du moment où on va participer au grand souper. Celui qui est décrit un petit peu plus loin dans le même livre de l'Apocalypse, tourné quelques pages, jusqu'au chapitre 19. Chapitre 19, au verset 7, il est écrit ceci. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce matin, nous pouvons encore entendre les véritables paroles de Dieu qui dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et c'est pour nous préparer à ça qu'il nous dit, j'aimerais, dans le peu de temps qui nous reste, que nous puissions resserrer les liens de notre alliance en partageant ce souper ensemble. Ce souper dans lequel, encore une fois, nous allons participer au sacrifice de Jésus, bien qu'il ait été fait une fois pour toutes. Parce que le bénéfice de ce sacrifice est accessible à chacun encore aujourd'hui. Détruire Jésus pour bénéficier de sa grâce. Quand on y pense, c'est beaucoup plus que simplement absorber de la nourriture. C'est beaucoup plus que croquer une pomme ou que de faire des pierres avec du pain. C'est manger le fruit de l'obéissance ou le fruit de la désobéissance. C'est accepter de prendre l'antidote pour détruire en nous l'effet de ce fruit de la désobéissance qui nous amène dans tous les malheurs que nous connaissons aujourd'hui, dans toutes ces situations où nous nous sentons misérables, pauvres, aveugles et nus. Le fruit de l'obéissance. Parce qu'un jour, vous comprenez, on va continuer à manger parce que nous en aurons besoin. Et là, il suffit de tourner une page. Et nous avons été de la première à la dernière, jusque dans Apocalypse au chapitre 22, où il nous est dit au verset 2, « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Je voudrais me faire une tisane de ces feuilles-là. Pour être guéri de cette maladie du péché qui me ronge. Et j'attends avec impatience ce moment où je pourrai chaque mois bénéficier de ce fruit qui va me catapulter dans l'éternité avec le Seigneur. Mais en attendant, il nous propose de participer encore à un souper avec lui. Un souper qui est beaucoup plus que de mordre sur un bout de pain. Un souper dans lequel il nous invite à resserrer l'alliance que nous avons faite avec lui par le baptême, lorsque nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel, grâce à son sacrifice. Alors aujourd'hui, le Seigneur me propose encore de participer à ce repas avec lui. Et j'aimerais qu'au-delà de ce pain que nous allons manger, de ce jus de raisin que nous allons boire, nous puissions voir cette alliance que le Seigneur nous propose de resserrer autour de son amour, autour de sa croix. Parce qu'en fait, c'est là que tout s'est passé, autour de la croix. Et le Seigneur nous propose de partager ce repas, comme il le dit à ses disciples, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est dire à quel point, à la fin des temps, nous avons besoin de serrer les coudes autour de Jésus et de recevoir sa grâce. Amen.